l'amour de Dieu. Nous lirons dans la première épître de Jean, au chapitre 4. Il y a là un passage très intéressant sur l'amour de Dieu. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Retenons bien cela, l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Deuxième grande déclaration, Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et au verset 16, « Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. » En somme, nous étudions ici l'amour dans le cadre de ce que nous avons appelé les attributs de Dieu, c'est-à-dire les grands caractères de la personne de Dieu. Mais nous sommes obligés d'apporter une petite rectification, petite qui est peut-être grande, pour dire que l'amour, tout comme l'Esprit, définit la personne de Dieu. C'est donc plus qu'un caractère, c'est l'essence, c'est la nature même de Dieu. Dieu est amour, comme Dieu est Esprit, comme Dieu est lumière, comme Dieu est éternel, comme Dieu est immuable. Par toutes ces affirmations, en somme, nous définissons, par le moyen de la révélation et dans une connaissance qui est adaptée à nos faibles moyens sur la terre, nous connaissons imparfaitement, partiellement, nous dit Paul, plus tard, nous connaîtrons comme nous avons été connus. Mais cette connaissance qui nous est donnée par la révélation est déjà magnifique. Dieu est amour, comme Dieu est esprit, et nous touchons là la nature même de Dieu. Très rapidement, je vous dirai d'ailleurs ceci, une pensée qu'il est bon de considérer, est que le Dieu véritable ne peut pas être conçu autrement que cela, autrement que Dieu amour, que Dieu étant amour. Ce n'est pas possible. Un Dieu, par hypothèse, qui ne serait pas amour, est un Dieu impossible. Certains penseurs ont examiné la chose, y ont bien réfléchi, moi aussi je l'ai fait un peu, et l'on arrive rapidement à cette conclusion qu'un tel Dieu n'est pas possible. Et alors, on peut dire tout de suite que le Dieu des religions que les hommes se sont données à partir de certains initiateurs, comme Mahomet, comme Confucius, comme Bouddha et autres, eh bien, ces religions ne peuvent pas être vraies. Et le Dieu de ces religions n'est pas le vrai Dieu, pour la raison, déjà, que ce Dieu, le Dieu des religions, que ce soit l'une ou l'autre, on ne peut pas dire de lui qu'il est amour. Dieu n'est pas aimé. Dans les religions des hommes, il n'est pas aimé. Et ça, c'est une constatation à faire, n'est-ce pas ? Elle est flagrante. Et si Dieu n'est pas amour, le Dieu des religions n'est pas vrai. Seul le vrai Dieu est celui de qui on peut dire qu'il est amour. Un Dieu qui serait, par exemple, justice seulement, serait armé de cette justice inflexible, et elle est inflexible, bien sûr. Et qui ne serait pas amour, mais serait un Dieu qui serait véritablement impossible à approcher. On ne pourrait pas l'approcher. Ce serait quelque chose de terrible. Ce serait alors simplement le Dieu dont nous parle un peu l'Épître aux Hébreux, le feu dévorant, un juge terrible. D'abord, s'il n'était pas amour, mes amis, nous n'existerions pas. Nous n'existerions pas. Alors, vous voyez que c'est bien impossible que Dieu ne soit pas amour. Mais il faut l'affirmer, bien sûr, c'est une merveilleuse affirmation. C'est une affirmation, donc, caractéristique de la révélation biblique. Et notamment de la prédication de l'Évangile. Une affirmation qui est là, centrale, dans l'Évangile, puissance de Dieu pour ceux qui croient, une affirmation centrale. Et cette affirmation, notamment et surtout, est de celle qui montre que le vrai christianisme est bien la seule religion véritable, pour employer ce mot. Dans le Nouveau Testament et dans la version des Septante, je pense que vous savez ce que c'est la version des Septante, c'est l'Ancien Testament qui, avant la venue de Jésus-Christ, a été traduit en grec par un collège de 70 spécialistes, 70 traducteurs, et nous avons toujours comme document cette version des 70, à laquelle d'ailleurs le Nouveau Testament se rapporte souvent. Eh bien, dans le Nouveau Testament et dans la version des 70, c'est-à-dire l'Ancien Testament en grec, l'amour est exprimé par le mot agapé. Et ce mot agapé, ce mot grec agapé, a le sens d'un amour descendant de Dieu vers l'homme pour susciter de la part de l'homme un retour de ce même amour, une sorte de retour comme par exemple un rayon de lumière se réfléchit dans un miroir. Eh bien, c'est cela, l'agapé. Et ce mot est précieux, il doit être réservé à l'amour de source divine, à cet amour de l'esprit, cet amour de Dieu. Ainsi, l'homme ne peut donner à Dieu que l'amour qu'il l'atteint lui-même. Il ne peut donner à Dieu que cet amour, et cela, l'Ancien Testament l'exprimait, David notamment, lorsqu'il disait « Qu'avons-nous, Seigneur, que nous puissions te donner et qui ne nous soit venu de toi ? Ce que nous avons à te donner, nous l'avons reçu de toi. » N'est-ce pas ? Et c'est bien vrai pour l'amour notamment. Et c'est ce qui fait dire aussi à l'Écriture ceci, dans 1 Jean 4, « Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le premier. » Ce qu'il ne faudrait pas mal comprendre, « Nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le premier », ça voudrait dire, puisqu'il nous a aimé, alors nous consentons, nous aussi, n'est-ce pas, à l'aimer, c'est pas ça. Nous l'aimons et nous pouvons l'aimer parce que lui a pris l'initiative de nous aimer. Voilà ce que ça veut dire. Autrement, nous n'aurions pas pu aimer Dieu si lui ne nous avait aimé le premier. L'initiative est donc venue de Dieu lui-même. Nous allons reconnaître maintenant des qualités à l'amour, des caractères à cet amour agapé, cet amour divin. Oh, je me limiterai à ce qui est essentiel. D'abord, l'amour est porté à conserver, à garder. C'est-à-dire, l'amour ne consent pas à perdre ce qu'il s'est donné, ce qu'il a. L'amour ne consent pas à perdre. L'amour de Dieu souffre de subir une perte. Et cela, nous l'avons exprimé dans une merveilleuse parabole du Seigneur Jésus-Christ, la parabole de la brebis perdue. Le bon berger ne peut pas souffrir, consentir à perdre une brebis sur 100. C'est beaucoup trop, c'est une perte qu'il ne peut pas subir. Le fils prodigue aussi a, par son départ, laissé dans le cœur du père une souffrance. Et lorsqu'il revient, mon fils qui était perdu est revenu. Alors le père est dans une joie immense. Donc voilà un grand caractère de l'amour divin. Il ne consent pas à subir une perte. Il veut conserver. Voilà déjà un grand caractère de l'amour. On peut trouver ce caractère dans l'amour humain. Mais malgré cela, l'amour humain reste toujours, bien sûr, entaché de l'état de péché, entaché des imperfections humaines. Et souvent, l'homme veut lui aussi conserver, il ne veut pas perdre l'objet d'un amour, celui ou celle qu'il aime. Seulement, il y a là, malheureusement, un égoïsme qu'on ne trouve pas, bien sûr, qu'on ne peut pas trouver en Dieu. Nous allons le voir dans les autres caractères. Deuxième caractère de l'amour de Dieu, c'est que cet amour va s'employer pour conserver en vie l'objet aimé, c'est-à-dire, mettons, la créature aimée, quelle qu'elle soit, que ce soit un ange, que ce soit l'homme, la créature aimée, alors Dieu veut la conserver. Je dirais même que cet amour de Dieu s'étend aussi au cadre de notre vie, à tout ce qui a vie. Et nous voyons dans certains textes, notamment dans l'Apocalypse, que Dieu ne veut pas que l'on détruise les arbres, l'herbe, la végétation, les animaux. En somme, le Seigneur notre Dieu est un écologiste. Le plus grand écologiste et le meilleur écologiste qui soit, n'est-ce pas? Oui. Alors, ça ne veut pas dire que nous allons, nous chrétiens, nous lancer dans des programmes de lutte écologique, n'est-ce pas? Laissons ça à ceux qui aiment les luttes et les combats. Nous avons une lutte et un combat, un seul, c'est celui de proclamer la voie du salut. Voilà, n'est-ce pas? Et de combattre les ténèbres, d'arracher les âmes aux ténèbres. Voilà notre combat, notre seul combat. Mais il faut bien dire que, n'est-ce pas, l'écologie est une chose qui se trouve dans l'amour de Dieu. Ne fait pas de mal aux arbres et à l'herbe. Et puis, dans des prophètes, nous voyons que pour le temps du rétablissement de toutes choses, de la palingénésia, c'est-à-dire du nouvel engendrement de cette terre, il y a une alliance prévue avec les animaux. Je ferai alliance avec les animaux. Voyez, n'est-ce pas, que même l'amour s'étend aux formes de la vie. Bien entendu, l'amour est bien plus à une activité, disons, tout à fait particulière concernant ceux, les créatures, qui sont à l'image de Dieu, qui étaient à l'origine à l'image de Dieu, comme nous le sommes, nous les hommes. Et cela, le Seigneur l'a traduit dans un de ses enseignements. Il nous a dit, par exemple, « Voyez, n'est-ce pas que Dieu prend soin des petits passereaux, des petits moineaux ?» Mais vous valez bien plus que, parce que, pourquoi? Mais parce que vous pouvez entrer dans une relation avec Dieu, une relation par le cœur. Vous pouvez être en relation directe avec Dieu, à travers Christ bien sûr, tandis que cela n'est pas donné aux petits passereaux. Vous valez bien plus que. Cependant, le Seigneur nourrit les petits oiseaux et le Seigneur est attentif à toutes les formes qu'il a données lui-même à la vie. Donc, l'amour veut conserver, il veut faire vivre de la vie véritable, de la vie heureuse, de la vie éternelle. Et pour cela, il veut ramener, évidemment, ces créatures à l'état de perfection, à l'état de parfaite obéissance à sa volonté qui détermine le bonheur. C'est la sainteté, vous le savez, qui est à la base du bonheur. La sainteté, donc l'obéissance à la volonté de Dieu, est à la base du bonheur et de l'éternité. Faire vivre de la vie véritable et heureuse. C'est pourquoi nous sommes obligés là de le signaler. L'amour, dont on parle tant de fractions aujourd'hui dans ce christianisme tellement diversifié, eh bien, cet amour dont on parle souvent et qui est allié, qui est conçu dans le sens de la compromission avec toutes sortes de choses qui se trouvent en dehors de la vérité, cet amour-là n'est pas l'agapé, n'est pas l'amour qui vient de Dieu. C'est encore un faux amour, un amour conçu par l'homme. Dire par exemple ceci, n'est-ce pas, oh bien, nous nous aimons, il faut être amour. Combien de fois maintenant n'entend-on pas cette réflexion-là? Ah, il faut, vous comprenez, être amour. Alors, il faut être amour, on nous dira aussi, il faut se faire tout à tous. C'est-à-dire qu'il faut accepter ceux qui n'acceptent pas la vérité, qui ne se tiennent pas dans la lumière, et qui veulent conserver, par exemple, des faux dogmes, des hérésies, toutes sortes de choses qui heurtent la vérité et qui sont dans les pratiques idolâtres, dans des pratiques qui utilisent des intermédiaires imaginés par l'homme, voulus par l'homme, ce qui est en horreur à Dieu. Et alors ces gens-là, s'ils voulaient se départir, s'ils voulaient se repentir, s'ils voulaient abandonner ces pratiques, du fait précisément de l'Évangile, et s'ils laissaient la parole de l'Évangile d'abord les purifier, agir en eux, nous dirions, mais gloire à Dieu qu'ils viennent au milieu de nous, que nous sommes un avec eux. Mais s'ils ne veulent pas, et s'ils veulent conserver ces pratiques, et si nous les laissons dans ces pratiques, nous les encourageons même à rester dans le catholicisme, par exemple, le système romain. Si nous les encourageons, et si nous disons, mais laissez-les, nous sommes avec eux, nous allons prier avec eux, nous allons tout faire avec eux parce qu'il faut être amour. Ne regardons pas l'étiquette qu'ils ont, ne regardons pas la religion qu'ils professent. Non, nous sommes amour, nous sommes un. Chers amis, c'est quelque chose de honteux, de faux, que d'affirmer, à cause de l'amour, nous faisons cela, nous faisons une chose qui est précisément contraire à l'amour. L'amour veut avant tout sauver, et l'amour veut purifier par le sang de Jésus. L'amour veut amener toute âme à la croix. Toute âme rendue captive, nous dit l'Écriture, l'amener là, au pied de la croix, pour qu'elle trouve le pardon de ses péchés, et pour qu'elle soit changée, transformée. Voilà l'amour. Et l'amour ne peut faire que cela. Bien sûr, l'amour ne va pas employer des rigueurs pour faire cela, n'est-ce pas? Il ne va pas employer des rigueurs. L'amour va pouvoir employer même toutes les douceurs, mais l'amour va se laisser conduire, inspiré par le Saint-Esprit, pour agir sur ceux qui n'appartiennent pas encore à Christ, afin qu'ils viennent dans la maison de Dieu après s'être repentis vraiment. Voilà l'amour. L'amour sauve. L'amour veut sauver. L'amour veut amener à la vie par Jésus-Christ. Et l'amour ne fait que cela sur la terre, car il n'y a que cela à faire vis-à-vis du monde. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui, c'est-à-dire s'attache à lui, quiconque devienne un avec lui, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est donc l'amour qui s'emploie exclusivement, et nous allons voir l'amour de Dieu dans l'Église, qui s'emploie exclusivement à conserver les créatures dans la vie, à les amener à la vie. Et tout ce qui n'amène pas à la vie, à travers Jésus-Christ et par le chemin, le seul chemin, nous disons, n'est-ce pas, Jésus, un seul chemin. Ah, nous aimons ça, cette image, n'est-ce pas, le doigt levé vers le ciel. Jésus, seul chemin. Mais oui, bien sûr, seul chemin. Mais attention, sur ce chemin-là, il y a la croix. Et s'il y a la croix, il y a la mort avec Christ, pour une résurrection avec Christ. Et c'est ça, le chemin. Le chemin, ce n'est pas un chemin de sentimentalité, un chemin de bonhomie. Un chemin d'alliance fraternelle, factice, c'est un chemin où il y a la croix. Et la croix appelle l'homme à se repentir, à mourir. Par la vertu, précisément, de la crucifixion de Christ, à mourir à lui-même pour ressusciter à lui-même. Voilà l'amour de Dieu. Et chers amis, prenez bien garde. Ayez du discernement. L'amour de Dieu, rappelez-le-vous, Jean 3,16, on cite souvent cela, Dieu a tant aimé le monde et c'est pourquoi il a donné son Fils, comme une victime. Et troisième caractère, grand caractère de l'amour divin, c'est que l'amour divin contient en lui-même le désir d'élever jusqu'à soi. Dieu, en raison de son amour, par l'action de son amour, et c'est dans son amour cela, veut élever jusqu'à lui. Il ne veut pas laisser sa créature très loin en dessous de lui, et elle est vraiment très inférieure, n'est-ce pas, de combien inférieure, nous dit un psaume. Mais Dieu veut élever jusqu'à lui. Je vous rappellerai simplement ces choses. Quiconque s'abaisse sera élevé. Quiconque s'abaisse, c'est-à-dire quiconque s'humilie. Et dans un autre passage, au début de l'évangile de Luc, nous avons ceci. Dieu a élevé les uns. Élevé. D'abord, Dieu, vous savez, s'est abaissé en Jésus-Christ, et Jésus-Christ, devenu homme, il l'a élevé, élevé, très haut, élevé, élevé. Et cela, c'est pour nous élever, nous aussi, hommes. Mais il ne faut pas s'élever soi-même. Soi-même, il faut s'abaisser. Et l'élévation, c'est Dieu qui l'a fait. Humiliez-vous devant le Seigneur, nous dit Jacques, humiliez-vous, et il vous élèvera. Dans le psaume 27, David peut dire ceci, l'Éternel m'élève sur un rocher. Il m'élève sur un rocher. Là, un rocher, c'est quelque chose d'inébranlable, de très solide et de très élevé. Il m'élève sur un rocher. Dans le prophète Ésaïe, nous voyons quelque chose qui est magnifique, c'est que Dieu se propose de donner aux hommes et aux femmes, aux êtres humains, des noms préférables à des fils et à des filles. Des noms au-dessus de ces noms qui sont déjà, ces désignations qui sont déjà très belles, fils et filles. Eh bien, là, le prophète nous révèle que le Seigneur veut donner des noms plus élevés encore, c'est-à-dire des situations plus élevées encore. Et puis, enfin, là où nous voyons l'élévation, que l'amour n'a de cesse de vouloir réaliser, c'est dans l'Apocalypse 3, je ne relirai que deux petits passages, au chapitre 3, verset 12. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. C'est Jésus qui parle. Et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Vous vous rendez compte déjà de cette élévation, de cet honneur. Appelons cela, n'est-ce pas, avec un terme humain, de ce grand honneur, celui qui sera victorieux, par la victoire de Jésus sur le péché, sur les ténèbres, alors il sera une colonne dans le temple de Dieu, c'est-à-dire une colonne qui aura sa place dans le temple éternellement. Une colonne. Non, il sera non, pas simplement une petite figurine dans le temple, mais une colonne. Il supportera le temple de Dieu et il n'en sortira plus. Il est dans le temple de Dieu à toujours. Et puis alors, sur lui, il y a le nom de Dieu. Avoir sur soi le nom de Dieu. Imaginez-vous cela. Si maintenant nous avions sur le front, là, n'est-ce pas, Yahvé. Et attention, déjà, il y aura un commencement d'exécution dans le cours du millénium. Il y aura sur même les clochettes des chevaux, sainteté à l'Éternel. Mais là, n'est-ce pas, Yahvé, le nom de Dieu sera gravé éternellement. Et puis, le nom de la ville de Dieu, la nouvelle Jérusalem, la Jérusalem d'en haut, comme nous disons. Et puis, un troisième nom, le nom nouveau de Jésus-Christ. Alors, pour porter de tels noms, mes amis, n'oubliez pas que dans la Bible, le nom, c'est la personne. Il y a donc, là, ça signifie qu'il y a une empreinte de la personne de Dieu, de la personne de Jésus-Christ, une empreinte de ce qu'est aussi la ville de Dieu, la cité de Dieu. Et puis, si nous allons au verset 21, il y a encore autre chose. Au verset 21 du chapitre 3, « Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, sur le trône de l'agneau, un trône qui est un trône divin. Comme moi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. » Cela veut dire, eh bien, vous allez recueillir même les prérogatives du règne. Vous voyez, n'est-ce pas, que l'élévation est véritablement dans la ligne de l'amour. L'amour veut élever aussi haut que possible. Aussi haut que possible. Et comme on comprend ces choses, n'est-ce pas? Voyez-vous, l'amour de quelqu'un vis-à-vis d'un autre, cet amour qui voudrait conserver à lui tous les privilèges, tout ce qui est bon, tout ce qui est magnifique, eh bien, et qu'il ne voudrait pas partager, ce ne serait pas un amour parfait, celui-là. Mais l'amour de Dieu est parfait. Il veut partager. C'est magnifique. Magnifique. Et d'ailleurs, n'est-ce pas, il est dit que nous serons héritiers de Dieu et co-héritiers avec Christ. Nous partageons l'héritage de Christ. Et c'est aussi l'amour. Alors là, j'ajoute ce caractère qui correspond à celui que nous venons de voir. L'amour veut élever, mais c'est aussi dans l'amour que se trouve la raison de l'abaissement de Dieu. La créature humaine est tombée. Alors, Dieu va s'abaisser en Christ, en Jésus-Christ, en son Fils. Et nous allons voir ce qu'est son Fils. Il va s'abaisser en Christ jusqu'à l'homme pécheur qui est perdu. Il va s'abaisser. Et cela, vous connaissez le passage de Philippiens 2:5. Vous connaissez bien, c'est un passage qu'il faut toujours avoir dans l'esprit. 2:5, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, existant en forme, ça veut dire en réalité de Dieu. Christ, existant en forme de Dieu, et qui prend une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ça nous savons que ça a été, c'est réel, il a vraiment été un homme, et, n'est-ce pas, il a paru comme un simple homme, c'est vrai, donc en forme de, ça veut dire en réalité de. Alors, Jésus, existant en réalité de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal ou de rester égal avec Dieu le Père, il s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, et même jusqu'à la mort de la croix. Alors, l'abaissement, voyez, Dieu consent cette chose inouïe, incompréhensible, dira Paul, une chose extraordinaire, inconcevable, de s'abaisser, pour venir chercher l'homme. Alors, chers amis, laissez-moi ici dire un mot des conséquences de cela. Si nous y pensions à cet abaissement, si nous pensions à cette élévation extraordinaire que Dieu a en vue pour nous, ne serions-nous pas peut-être plus fidèles? Ne serions-nous pas plus soumis à Dieu? N'éviterions-nous pas toutes ces chutes peut-être, tous ces écarts, toutes ces offenses que nous infligeons, hélas, à notre Dieu. Voyez-vous, l'amour doit nous amener à la perfection. Le royaume de Dieu vers lequel Dieu dirige ses élus est le royaume de son amour. Royaume promis à ceux qui l'aiment, nous dit Jacques. Nous avons dans l'évangile de Jean une affirmation réitérée selon laquelle le Père aime le Fils. Dans Jean 3, 35, d'abord. Le Père aime le Fils et il a remis toutes choses entre ses mains. Le Père aime le Fils. Considérons cela dans le chapitre 5 et au verset 20. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Dans le chapitre 10 et le verset 17. le Père m'aime, parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Dans le chapitre 15, comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé, demeurez dans mon amour, comme le Père m'a aimé. Nous avons donc cette affirmation qui est là reprise par le Seigneur Jésus. Elle est donc capitale, elle est importante. Le Père aime le Fils. Et vraiment, le Fils peut être appelé le Fils de son amour. Alors, réfléchissons à quelque chose là. Dieu est éternel. Son amour est éternel, puisque c'est la nature même de Dieu, c'est l'essence de Dieu. Son amour est éternel, cela est dit. C'est-à-dire que Dieu n'a pas de commencement, son amour n'a pas de commencement, mais avant que le monde ne soit créé, avant ses œuvres les plus anciennes, alors qu'il n'y avait rien, sur quoi l'amour de Dieu pouvait-il se porter? L'amour a besoin d'un objet, a besoin de quelqu'un pour se porter sur ce quelqu'un, parce que s'il n'y a personne, l'amour ne peut pas s'exercer, ne peut pas, n'est-ce pas, se manifester. L'amour est une nécessité de la personne de Dieu. Et alors il fallait un objet de cet amour avant que le monde ne soit créé. Il fallait donc qu'il y ait en Dieu lui-même un objet de son amour, c'est-à-dire une multiplicité de personnes dans la divinité. Et l'éternel objet de l'amour de Dieu est le Fils éternel. Le Fils de son amour, le Fils éternel. C'est pourquoi cette affirmation « le Père aime le Fils » ou « le Père m'aime » est fondamentale, parce que ça nous fait remonter avant la création du monde. Cela nous fait remonter, si l'on peut dire, tout au fond de l'éternité, l'éternité qui n'a pas de fond, naturellement, mais cela nous fait remonter au jour de l'éternité, pour nous exprimer avec la Bible, et là, nous voyons que l'amour du Père s'exerçait sur le Fils, et que c'est cela qui fait que, quand le temps est arrivé, Dieu sauve le monde des hommes, et ce salut provient de cet amour du Père pour le Fils, et du Fils pour le Père. C'est la base. C'est la base, mes amis, c'est ce que Jésus nous explique bien dans ce chapitre 15 de Jean notamment, c'est la base même de l'œuvre de rédemption, de l'œuvre du salut, c'est la base de tout, le Père aime le Fils. Et en disant cela, en disant que le Fils éternel est l'objet éternel de l'amour du Dieu qui est lui-même éternel, nous disons que Christ a en effet éternellement préexisté à son incarnation, à sa venue dans le monde comme en forme d'homme. Il a préexisté. Là, ça suffit, cela, n'est-ce pas, déjà, pour établir la préexistence de Jésus-Christ en tant que Fils éternel, en tant que parole de Dieu. Alors, vous voyez comme c'est grand, jusqu'où ça remonte. Et j'en reviens toujours à cela, les Éphésiens nous disent que Dieu nous a élus dès avant la fondation du monde. Ben bien sûr, parce que c'était là, dans le fait de l'amour du Père pour le Fils, et du Fils pour le Père, c'était là, en somme, et qu'était la substance, l'origine de ce grand dessein de Dieu, de nous sauver. C'est magnifique. Et nous arrivons aussi à quelque chose qu'il nous faut considérer dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 13. Chapitre 13 et verset 8. Alors, malheureusement, il y a ce mot « charité » qui vient du latin « caritas ». Et avec « caritas », on a cru, dans la version en latin, la Vulgate, on a cru pouvoir traduire « agapé », ce qui était satisfaisant pendant un temps, oui. Mais, en réalité, maintenant, il faut revenir, et les versions nouvelles le font, revenir à l'amour. Il ne s'agit pas de charité là-dedans, telle que nous la concevons maintenant, il s'agit d'amour. Alors, l'amour ne périt jamais. L'amour est impérissable. D'ailleurs, dans le verset 13 du même chapitre, « Maintenant donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, la charité, c'est-à-dire l'amour, mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. » La plus grande de ces choses, c'est l'amour. Les dons spirituels prendront fin quand l'Église ne sera plus sur la terre, n'a plus besoin des dons spirituels. Les dons spirituels prendront fin, mais l'amour, lui, ne périt jamais. Il subsiste toujours. C'est-à-dire qu'il ne cesse jamais, parce qu'il est l'essence même de la vie véritable. Il est l'essence de la vie. Il ne peut pas y avoir de vie véritable sans l'amour. C'est encore pourquoi, n'est-ce pas, la rédemption remonte à ce grand fait que le Père aime le Fils et le Fils aime le Père. Comme Jésus le souligne tant, n'est-ce pas, le Père aime le Fils, c'est pourquoi. Là, nous voyons que l'amour est l'essence de la vie véritable qui est puisée en Dieu. En Dieu, la vie éternelle est puisée. C'est en Dieu qu'est la vie. Il est source de la vie. Et Jésus-Christ apparaît ayant lui aussi la source de la vie pour nous la communiquer. Et la vie véritable qui est éternelle ne peut pas se concevoir sans l'amour. La vie et l'amour sont liés. L'amour chez l'homme sauvé atteindra à la perfection. Dans les Colossiens, nous avons un verset au chapitre 3, verset 14. L'amour est le lien de la perfection. L'amour est le seul lien qui soit nécessaire et qui subsiste dans l'état de perfection qui existera dans le royaume de Dieu. Actuellement dans l'Église, notre amour pour Dieu n'atteint pas, malheureusement, la perfection encore, et la différence entre l'amour que nous avons maintenant, nous membres de l'Église, l'amour que nous avons pour Dieu, la différence de cet amour avec l'amour futur, l'amour dans sa perfection future, dans le royaume de Dieu, la différence, c'est une question de perfection. Pour l'instant, notre amour n'atteint pas la perfection, alors que dans le royaume de Dieu, l'amour atteindra la perfection. Mais, cet amour que nous avons maintenant dans l'Église, les membres de l'Église, à l'égard de Dieu, cet amour est de même nature que l'amour parfait que nous connaîtrons dans le royaume de Dieu. C'est la même nature. Ce n'est pas un autre amour, c'est celui-là. C'est l'agapé. L'amour qui descend du Père, qui vient au Fils, qui vient aux disciples, et qui repart vers Dieu. Il n'est pas celui qui part de nous vers Dieu, n'a pas sa totalité, n'a pas sa perfection, quoiqu'il pourrait avoir une totalité. Il pourrait aller jusqu'à cette plénitude, la totalité, la plénitude de Dieu. Mais généralement, il ne l'a pas. Et donc, il est différent de notre amour. Lorsque nous serons dans le royaume de Dieu, là, nous connaîtrons l'amour parfait. Mais la nature de l'amour que nous avons maintenant est la même, la même nature. Alors, c'est pourquoi, mes amis, vous voyez, je me gendarme, je me sens soulevé par une indignation, n'est-ce pas, quand je vois que, avec l'amour, qui doit s'exercer dans l'Église, entre les uns et les autres, l'amour fraternel qui est l'amour de Dieu, eh bien, quand on en fait, n'est-ce pas, une caricature, comme je le disais tout à l'heure. Parce que l'amour est de même nature, il doit être de même nature que l'amour que nous aurons dans le royaume de Dieu. Je ne voudrais pas vous garder encore bien longtemps maintenant, mais puisque nous avons prononcé la chose, nous allons pouvoir dire que dans l'Église maintenant, l'amour de Dieu et de Christ doit être la réalité glorieuse et permanente dont l'Église vit. Si l'Église a la vie véritable, éternelle, la vie de résurrection, elle ne peut pas manquer d'avoir l'amour qui est versé dans les cœurs par le Saint-Esprit. Elle ne peut pas manquer d'avoir l'amour. Il n'atteint pas sa perfection, sans doute. Mais elle a cet amour qui est de nature, agapé, l'amour divin. Et je voudrais vous montrer, vous lire dans Éphésiens chapitre 3, ce beau passage de 14 à 21. Chapitre 3 des Éphésiens, verset 14. « À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs, par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ, qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. » Oh ! Si donc l'amour, vraiment, complète, si je puis dire, ou évolue en nous, vers la perfection. Il est déjà de la bonne nature, mais qu'il évolue vers sa totalité, vers la perfection, nous arrivons à la plénitude de Dieu. C'est-à-dire à la plénitude du royaume de Dieu. Plénitude que nous aurons, que nous toucherons, que dans laquelle nous vivrons dans le royaume de Dieu. Atteindre la plénitude. L'amour est donc la base de toute vie chrétienne. En même temps que l'amour est le but et l'accomplissement, la consommation de l'Église, de la vie de l'Église, n'est-ce pas ? La vie de l'Église va aboutir au royaume de Dieu. Et là, n'est-ce pas, tout va être consommé, c'est-à-dire pleinement réalisé. Et le but, donc, c'est l'amour, puisque dans le royaume de Dieu, n'est-ce pas, l'amour tient la place centrale et l'amour amène la plénitude de Dieu. Les membres de l'Église peuvent donc atteindre par l'amour toute la plénitude de Dieu. Nous le pouvons. Ce n'est pas une affaire de connaissance, puisque la connaissance restera toujours, tant que nous sommes sur la terre, limitée, mais c'est une question d'amour. Sans même que nous arrivions à une connaissance pleine et entière, nous arriverons cependant à connaître l'amour, à comprendre, à connaître l'amour, et cela nous conduit à la plénitude de Dieu. Ce qui est différent de la plénitude du Saint-Esprit, n'est-ce pas ? Plénitude du Saint-Esprit, c'est à l'orée de la vie chrétienne. Ça doit être au commencement de la vie chrétienne. Et puis, la plénitude de Dieu, c'est au contraire le grand but vers lequel nous nous avançons. La révélation de l'amour du Père, donc la révélation que nous donnent les Écritures de l'amour du Père, ne peut pas subsister par elle-même. C'est-à-dire, elle ne peut pas subsister dans les mots seulement, dans les mots qui la traduisent. Et cette révélation de l'amour du Père reste attaché à la personne du Fils éternel. Si nous voulons avoir la révélation, c'est ce que nous dit ici, n'est-ce pas? Il faut que Christ habite dans vos cœurs par la foi, vraiment, qu'il y habite bien, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, si Christ habite, vous serez alors. Mais si Christ n'habite pas, ou n'habite que incomplètement, alors vous ne serez pas enraciné et fondé dans l'amour. Vous n'aurez pas beaucoup de l'amour divin, de l'agapé. Il faut que vous ayez Christ, pleinement. Voyez-vous? Oh, méditez bien cela, mes chers amis. Sans que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné, fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints, alors l'immensité de l'amour de Dieu, connaître l'amour de Christ, qui surpasse toute connaissance, la connaissance que nous pouvons même avoir par les Écritures, nous dépassons cela en réalisation. Nous le dépassons en réalisation. Nous ne le dépassons pas en connaissance, nous sommes limités, et Dieu le veut, ainsi, et à cause de notre présence sur la terre, à cause du fait que nous sommes toujours dans cette tente, dans ce corps, enfin, la connaissance est limitée. Mais l'amour, lui, non. L'amour n'est pas limité. La réalisation de l'amour n'est pas limitée. Même si ça va au-delà de toute connaissance possible, de toute connaissance apprise. Parce que l'amour peut nous conduire, dès maintenant, jusqu'à la plénitude de Dieu. Bien sûr, cet amour reste attaché, ou la révélation de l'amour reste attachée à la personne du Fils éternel, et donc à l'action actuelle et constante du Christ en nous, par le Saint-Esprit, bien sûr. Cette révélation de l'amour est liée à la rédemption, et elle est individuelle, comme la foi, l'exercice de la foi lui-même est individuel. L'amour révélé n'est pas un amour sentimental, un amour affectif, mais au-dessus de tout, il se traduit en obéissance de la part du disciple. Il se traduit par le fait que le disciple veille à avoir, désire avoir une conscience pure et sanctifiée. Et cette conscience pure et sanctifiée peut seule recevoir le puissant don de l'amour par excellence, car Paul a fait un don par excellence. Je vais vous montrer, moi, une voie par excellence, ou un don par excellence, l'amour, puisse recevoir ce don par excellence et atteindre à la perfection, c'est-à-dire atteindre à la plénitude de Dieu. Voilà, mes amis, ce que fait l'amour, qui veut conserver d'abord, qui veut ensuite élever jusqu'à soi. Et déjà maintenant, Dieu a hâte, il a hâte de nous élever, et c'est pourquoi il nous donne accès, comme nous le venons de le voir, à la plénitude de Dieu. Il a hâte, Dieu est pressé. Il patiente parce qu'il ne veut qu'aucun ne périsse, mais il a hâte de cela, de nous voir accéder à la vie abondante, à la plénitude de Dieu. Et déjà, il a ouvert l'accès à cette plénitude de Dieu par l'Esprit, par son Fils, si vraiment son Fils habite bien dans notre cœur. Que le Seigneur le permette. Amen.